Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel, et apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous avez maintenant les informations. La Bosnie a l'intention de renouveler la coopération économique avec l'Indonésie. L'Indonésie est difficile de répondre à la demande d'exportation de sucre de palme aux pays membres de l'OCI. L'Indonésie et l'Irlande du Nord renforcent la coopération économique et de la défense. Auditeurs et auditrices, voici donc les informations complètes. L'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, Mohamed Cengic, lundi à Jakarta, a dit qu'il a l'intention de renouveler la coopération économique entre l'Indonésie et la Bosnie. Cela a été transmis pour répondre à la faible valeur de la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique. Jusqu'en septembre 2017, la valeur commerciale de l'Indonésie et de la Bosnie-Herzégovine ont atteint plus de 3 millions de dollars américains. Selon l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine à l'Indonésie, il y a des secteurs de coopération qui attirent l'attention des deux pays, tels que la coopération énergétique et militaire.
We are now trying, and this is priority of our embassy in Jakarta, to renew our economic ties, to open a new chapter.
Nous essayons maintenant, et c'est la priorité de notre ambassade à Jakarta, de renouveler nos relations économiques. Nous voulons ouvrir un nouvel espace sur la coopération économique, traditionnellement, et la coopération dans le secteur de l'énergie et la coopération militaire. Avant la guerre, certaines de nos entreprises ont la bonne expérience dans le domaine de l'énergie. Nous voulons une bonne expérience pour renouveler notre relation. La première étape a été réalisée et j'espère au début de l'année prochaine, notre société peut participer au premier projet en Indonésie. L'ambassadeur Mohamed Cengic a expliqué que l'Indonésie et la Bosnie-Herzégovine, dans un proche avenir, renforceront la coopération dans l'agriculture. Il souhaite que les deux pays puissent signer un protocole d'accord au début de l'année 2018. Cet accord élargira la coopération entre les deux pays en donnant la possibilité aux produits agricoles indonésiens pour être commercialisés en Bosnie-Herzégovine. Le sucre de palme d'Indonésie reçoit une réponse positive des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique OIC. Cependant, à cause du manque de production, cette demande ne peut pas répondre aux exportations vers ce pays. Cela a été confirmé par le président de l'Association indonésienne des producteurs du sucre de la province de Riau, Warsito, à Radio République Indonésia lundi. La demande des pays arabes regroupés dans les pays de l'OCI sur le sucre de palme est incroyable, 40 tonnes par jour. De l'Indonésie, nous ne pouvons pas encore remplir. Nous pouvons les remplir un peu. De Riau, nous avons l'intention de planter plus de palmiers à sucre parce que l'opportunité du marché est très large. Warsito a expliqué que le marché des pays membres de l'OCI et des États-Unis était assez difficile à pénétrer car il doit répondre à diverses conditions à la fois de la procédure et de la qualité des marchandises. Il a ajouté que pour répondre à la demande d'exportation, le gouvernement continuera à faciliter les produits de sucre, de palme, de l'Indonésie pour être plus familier avec le marché d'outre-mer. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors d'une réunion bilatérale avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, demande au gouvernement de Jordanie de renforcer la lutte diplomatique pour l'indépendance palestinienne. La déclaration unilatérale des États-Unis sur le statut de Jérusalem ne changera pas l'engagement fort de la diplomatie indonésienne de se battre pour l'indépendance de la Palestine. La déclaration a été dite par la ministre Retno Marsudi au ministre de la Jordanie Ayman Safadi dans une réunion bilatérale au ministère des Affaires étrangères de Jordanie à Amman lundi. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta a déclaré lundi que la réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères faisait partie de la lutte diplomatique indonésienne pour la Palestine. Ils ont discuté des préparatifs du sommet exceptionnel de l'Organisation de la coopération islamique OCI sur la Palestine que se tiendra à Istanbul le 13 décembre 2017. Ils ont également coordonné pour la diplomatie dans la lutte pour le statut de Jérusalem et de l'indépendance palestinienne. L'Indonésie et l'Irlande du Nord renforcent la coopération dans les secteurs de l'économie et de la défense. Cela a commencé par une visite de travail de l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume-Uni, l'Irlande et l'Organisation maritime internationale, M. Rizal Sukma, le 7 et 8 décembre à Belfast, l'Irlande du Nord. L'ambassadeur Rizal Sukma a mené une rencontre avec le vice-chancelier, le professeur Richard English, et le directeur de l'Université Queen de Belfast a discuté des possibilités de coopération dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la gestion des conflits, ainsi que de la sécurité cyber. L'ambassadeur Rizal Sukma discute également des efforts pour renforcer la coopération dans l'éducation et la recherche entre l'Université de Queen et les universités indonésies. Rizal Sukma, avec l'équipe de l'ambassade d'Indonésie à Londres, ont rencontré des citoyens indonésiens vivant à Belfast, l'Irlande du Nord et ses environs. Notre dernière information. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, dirige une délégation indonésienne au Qatar pour attirer les investisseurs de ce pays en Indonésie. Dans le communiqué de presse, le ministre Luhut assistera à 3 réunions bilatérales au Qatar qui a été commencée par réunion avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à Doha dimanche. Les 3 réunions étaient axées sur le plan d'investissement du Qatar en Indonésie, selon un communiqué de presse publié lundi. Les 2 autres réunions étaient avec le ministre des Finances, Ali Sharif El Emadi, qui est également secrétaire général du Conseil suprême des affaires économiques et de l'investissement, et le vice-premier ministre Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, qui est également ministre de la Défense et le secrétaire d'État. En outre, ils ont également discuté de l'achèvement de l'accord bilatéral d'investissement entre l'Indonésie et le Qatar, du développement du secteur agricole à Kalimantan, de l'aquaculture à Sabang et du soutien aux Jeux asiatiques en Indonésie l'année prochaine. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis londoniens, veuillez écouter maintenant le commentaire. Notre sujet aujourd'hui, l'événement extraordinaire de la diphtérie. Le 11 décembre 2017, la ministre de la Santé, Nila Muluk, le gouverneur de la province spéciale de Jakarta, Anies Baswedan, et certains responsables de l'agence de santé de Jakarta, l'événement extraordinaire de la diphtérie. Le 11 décembre 2017, la ministre de la Santé, Nila Muluk, le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, et certains responsables de l'agence de santé de Jakarta ont témoigné la vaccination simultanément contre la diphtérie ou l'immunisation contre les épidémies en un étudiant représentant un certain nombre d'endroits à Jakarta. La ministre Nila Muluk l'a faite pour faire face à une maladie grave qui tourmente entre les enfants et les adultes dans un certain nombre d'endroits. Au moins, on sait qu'il y a 20 provinces qui ont été infectées avec des dizaines de victimes. Par conséquent, le ministère de la Santé définit le statut de extraordinaire pour l'épidémie de diphtérie. Les données de novembre 2017 montrent qu'en Indonésie, 622 cas ont été trouvés, 32 entre eux avec des victimes mortes. La diphtérie est une maladie causée par des bactéries provenant de Conibacterium diphtériae. Dans le passé, cette maladie a causé des milliers de personnes mortes. Même jusqu'à présent, la diphtérie est encore répandue dans certaines régions des pays sous-développés. Pour les survivants, son effet peut souffrir de paralysie de certains muscles et des dommages permanents au cœur et aux reins. Les enfants âgés à 10 ans sont très vulnérables à cette maladie. Une réponse rapide du gouvernement face à la tragédie extraordinaire de la diphtérie devrait être appréciée. Se référant au mouvement de sa propagation potentielle, cette maladie est très dangereuse. De plus, l'Indonésie est un très vaste pays avec une population considérable. La mobilité de la population est très élevée. Le plus tôt l'épidémie de diphtérie est surmontée, le plus vite les gens sont sauvés. Auditeurs et auditrices, c'était le commentaire pour aujourd'hui.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 12 décembre 1950, la journée de la transmigration. Le déplacement de la population de l'île de Java à l'extérieur de l'île de Java a été commencé en 1905. 155 chefs de famille paysans de Kedu, ou mettons appelé Magelang, ont été déplacés à Gedong Tataan, la résidence de Lampung, l'île de Sumatra. Cette activité était autrefois appelée la colonisation qui a duré 37 ans, soit jusqu'à la fin du gouvernement colonial en 1942. Le but du programme de colonisation est de résoudre la densité de population et aussi pour trouver la main-d'œuvre bon marché dans les plantations hollandaises en dehors de Java. Pendant le règne de la République d'Indonésie vers la fin de 1950, précisément le 12 décembre, a été commencée pour la première fois la transmigration. Et le 12 décembre 1950 a été créé par décret du ministre de Transmigration du 23 novembre 1984 en tant que journée de la transmigration. Le 12 décembre 1963, le Kenya a reçu son indépendance de la Grande-Bretagne. Le 12 décembre 1963, le Kenya a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne et aujourd'hui est fait la fête nationale du Kenya. Depuis le 8e siècle, le Kenya est devenu une colonie arabe. Les Portugais sont venus au Kenya au 15e siècle et depuis 1895, les Britanniques ont colonisé la région. Depuis les années 1950, le peuple du Kenya a commencé à se soulever contre la domination britannique dirigée par Jomo Kenyatta. Après l'indépendance du Kenya, Jomo Kenyatta a été élu premier ministre et un an plus tard, il a été nommé président. Ce pays est riche en pétrole, l'or, l'agate et le saphir. Le 12 décembre 1992, le tsunami a frappé l'île de Flores en Indonésie. Environ 3000 sont morts. Le tsunami qui a dévasté l'île de Flores s'est produit à cause du tremblement de terre dans la mer de Flores au nord de l'île. Le tremblement de terre a été enregistré le 12 décembre 1992. Un séisme de magnitude 7,5 a déclenché le tsunami, a fait au moins 2100 morts, 500 disparus, 447 blessés et 5000 déplacés. Les régions qui sont touchées par le séisme sont Sika, Ngada, Inde et Flores Est. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie est le pays le plus actif dans les enquêtes sur les affaires de corruption ». Le gouvernement indonésien est très préoccupé par le traitement des affaires de corruption en Indonésie. Même l'Indonésie est devenue l'un des pays les plus actifs enquêtant sur les affaires de corruption. Cela a été déclaré par le président Joko Widodo en commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption 2017, et l'inauguration de l'ouverture de la 2e conférence nationale de lutte contre la corruption et le lancement de l'application IRHKPN à Jakarta lundi 11 décembre 2017. L'agence de presse Antara a rapporté que l'événement a été également assisté par le président du Conseil des représentants régionaux, M. Ousmane Sabta Odang, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Yasona Lawli, le ministre de l'Intérieur, M. Cahyo Kumolo, le ministre de la Planification Nationale et Développement, M. Bambang Brojonegoro, et la ministre de la Santé, Mme Nila Moluk. Le président a ordonné l'amélioration du système de gouvernement, le service et l'administration, ainsi que l'augmentation de la sensibilisation du public pour aider à prévenir et éradiquer la corruption. Selon le président, l'application de la loi contre la corruption est une étape importante pour l'éradication de la corruption. Sur la base des données reçues par le président, via l'application de la loi, la corruption en 2016 jusqu'à 2017 a économisé l'argent de l'État de 3,55 trillions rupiah. En outre, le président Joko Widodo a affirmé que la déréglementation était la clé pour empêcher les pratiques de corruption. Le règlement qui protège l'intérêt public est très important. Par conséquent, le président a demandé que tous les ministres organisent les chefs régionaux tels que le gouverneur, les maires et les régions pour réduire la réglementation, les règles des licences et les exigences qui donnent le fer d'eau à la société et le monde d'affaires car il rend l'Indonésie inefficace. Le thème de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption 2017 est « Éradiquer la corruption ensemble pour créer une société prospère ». C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Auditeurs, voici donc les informations complètes. L'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, Mohamed Cengic, lundi à Jakarta, a dit qu'il a l'intention de renouveler la coopération économique entre l'Indonésie et la Bosnie. Cela a été transmis pour répondre à la faible valeur de la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique. Jusqu'en septembre 2017, la valeur commerciale de l'Indonésie et de la Bosnie-Herzégovine ont atteint plus de 3 millions de dollars américains. Selon l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine à l'Indonésie, il y a des secteurs de coopération qui attirent l'attention des deux pays, tels que la coopération énergétique et militaire.
We are now trying, and this is priority of our embassy in Jakarta, to renew our economic ties, to open new chapter.
Nous essayons maintenant, et c'est la priorité de notre ambassade à Jakarta, de renouveler nos relations économiques. Nous voulons ouvrir un nouvel espace sur la coopération économique, traditionnellement, et la coopération dans le secteur de l'énergie et la coopération militaire. Avant la guerre, certaines de nos entreprises ont la bonne expérience dans le domaine de l'énergie. Nous voulons une bonne expérience pour renouveler notre relation. La première étape a été réalisée et j'espère au début de l'année prochaine, notre société peut participer au premier projet en Indonésie. L'ambassadeur Mohamed Cengic a expliqué que l'Indonésie et la Bosnie-Herzégovine, dans un proche avenir, renforceront la coopération dans l'agriculture. Il souhaite que les deux pays puissent signer un protocole d'accord au début de l'année 2018. Cet accord élargira la coopération entre les deux pays en donnant la possibilité aux produits agricoles indonésiens pour être commercialisés en Bosnie-Herzégovine. Le sucre de palme d'Indonésie reçoit une réponse positive des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique OIC. Cependant, à cause du manque de production, cette demande ne peut pas répondre aux exportations vers ce pays. Cela a été confirmé par le président de l'Association indonésienne des producteurs du sucre de la province de Riau, Warsito, à Radio République Indonésia lundi. La demande des pays arabes regroupés dans les pays de l'OCI sur le sucre de palme est incroyable, 40 tonnes par jour. De l'Indonésie, nous ne pouvons pas encore remplir. Nous pouvons les remplir un peu. De Riau, nous avons l'intention de planter plus de palmiers à sucre parce que l'opportunité du marché est très large. Warsito a expliqué que le marché des pays membres de l'OCI et des États-Unis était assez difficile à pénétrer car il doit répondre à diverses conditions à la fois de la procédure et de la qualité des marchandises. Il a ajouté que pour répondre à la demande d'exportation, le gouvernement continuera à faciliter les produits de sucre, de palme, de l'Indonésie pour être plus familier avec le marché d'outre-mer. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors d'une réunion bilatérale avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, demande au gouvernement de Jordanie de renforcer la lutte diplomatique pour l'indépendance palestinienne. La déclaration unilatérale des États-Unis sur le statut de Jérusalem ne changera pas l'engagement fort de la diplomatie indonésienne de se battre pour l'indépendance de la Palestine. La déclaration a été dite par la ministre Retno Marsudi au ministre de la Jordanie Ayman Safadi dans une réunion bilatérale au ministère des Affaires étrangères de Jordanie à Amman lundi. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta a déclaré lundi que la réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères faisait partie de la lutte diplomatique indonésienne pour la Palestine. Ils ont discuté des préparatifs du sommet exceptionnel de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, sur la Palestine que se tiendra à Istanbul le 13 décembre 2017. Ils ont également coordonné pour la diplomatie dans la lutte pour le statut de Jérusalem et de l'indépendance palestinienne. L'Indonésie et l'Irlande du Nord renforcent la coopération dans les secteurs de l'économie et de la défense. Cela a commencé par une visite de travail de l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume-Uni, l'Irlande et l'Organisation maritime internationale, M. Rizal Sukma, le 7 et 8 décembre à Belfast, l'Irlande du Nord. L'ambassadeur Rizal Sukma a mené une rencontre avec le vice-chancelier, le professeur Richard English, et le directeur de l'Université Queen de Belfast a discuté des possibilités de coopération dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la gestion des conflits, ainsi que de la sécurité cyber. L'ambassadeur Rizal Sukma discute également des efforts pour renforcer la coopération dans l'éducation et la recherche entre l'Université de Queen et les universités indonésies. Rizal Sukma, avec l'équipe de l'ambassade d'Indonésie à Londres, ont rencontré des citoyens indonésiens vivant à Belfast, l'Irlande du Nord et ses environs. Notre dernière information. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, dirige une délégation indonésienne au Qatar pour attirer les investisseurs de ce pays en Indonésie. Dans le communiqué de presse, le ministre Luhut assistera à 3 réunions bilatérales au Qatar, qui a été commencée par réunion avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à Doha dimanche. Les 3 réunions étaient axées sur le plan d'investissement du Qatar en Indonésie, selon un communiqué de presse publié lundi. Les 2 autres réunions étaient avec le ministre des Finances, Ali Sharif El Emadi, qui est également secrétaire général du Conseil suprême des affaires économiques et de l'investissement, et le vice-premier ministre Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, qui est également ministre de la Défense et le secrétaire d'État. En outre, ils ont également discuté de l'achèvement de l'accord bilatéral d'investissement entre l'Indonésie et le Qatar, du développement du secteur agricole à Kalimantan, de l'aquaculture à Sabang et du soutien aux Jeux asiatiques en Indonésie l'année prochaine. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel discutant le rituel Podo Puzu. Donc restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Flores est l'une des îles en province Nusa Tenggara Est. Le nom de l'île Flores est dérivé de la langue portugaise Copa de Flores, signifiant Cap de Fleurs. Sur cette île vivent différents groupes ethniques qui ont leurs propres caractéristiques culturelles. Mais en général, ils ont les mêmes moyens de subsistance en plantant dans les champs. Par conséquent, ils sont très dépendants de la nature. Ils effectuent de divers rituels culturels de sorte que leur récolte est abondante. L'un des rituels culturels encore pratiqués est le rituel Podo Puzu, le rituel mystique de l'ethnie Kenge à Padarambu, le village Watungene, le sous-district Kota Komba, en région Manggarai Est, Flores. Dans le dialecte de la tribu Kenge, Podo signifie inter et Puzu signifie sauterelle. Conformément aux croyances de la tribu Kenge, Puzu est un animal malfaisant qui endommage toujours le riz, le maïs et d'autres plantes. L'animal ne peut pas être détruit avec des médicaments chimiques. Donc, Podo Puzu est un rituel hérité des ancêtres de la tribu Kenge pour livrer la sauterelle à son maître en mer. Conformément aux croyances de la tribu Kenge, tous les êtres de ce monde ont leur maître respecté. En plus des criquets, participent aussi les rats, les mangues ou l'asticot, le walang sangit et l'escargot d'or. Ce rituel doit être effectué chaque année afin que les criquets, les rats, les escargots dorés et le walang sangit ne nuisent pas aux récoltes des agriculteurs. Le rituel Podopuzu devrait être effectué sur la rive du fleuve. En fait, on met en œuvre au coin de deux rivières dans le village. Si les animaux sont regroupés d'entrée dans les rizières et les champs et endommagent les tiges de riz et de maïs et d'autres plantes, les anciens traditionnels doivent effectuer des rituels coutumiers. Les gens locaux croient que l'animal est venu de la mer, car depuis des centaines d'années, dans un groupe venant de la mer. Avant la tenue du rituel Podopuzu, la tribu traditionnelle Kenge préparait un poulet ainsi que 7 petites bâtonnets de bambou contenant du riz. Les gens de Kenge appellent le riz kolo ou bambou. Le riz en bambou doit être étrange, jusqu'à 7 bâtonnets de bambou. Ne doit pas être moins et ne devrait pas être plus. Au moment du rituel Podopuzu, les anciens propriétaires fonciers coutumiers vers Sangan. La rencontre entre les deux grands cours d'eau à la jonction entre la rivière Waiku et la rivière Waimokel. Avant des rites traditionnels, on prépare d'abord un bateau fabriqué à partir de la tige d'un arbre de la banane. Puzu, rat et mangue sont mis dans un bateau. Les foies de poulet et d'autres parties pris un peu avec du riz kolo présentés au propriétaire de l'animal. Les populations tribales Kenge appellent le propriétaire de l'animal et Moritana et Dragontana. Tout le rite ancien est terminé. Il a l'habitude de mettre le bateau à la rive de la rivière et a conduit le bateau navigué vers la mer. Sur le chemin du retour, les vieilles coutumes et les personnes qui fréquentent ne devraient pas tourner ou regarder en arrière. Si quelqu'un se retourne et regarde en arrière, il y aura un danger. D'ailleurs, c'est interdit. L'atmosphère doit être calme, calme et solennelle. Lorsque ce rituel a lieu, les femmes ne sont pas autorisées à participer. Ils sont à l'intérieur de la maison traditionnelle, Mbaru Mezé, pour préparer des plats traditionnels lorsque les anciens traditionnels et les propriétaires reviennent à Mbaru Mezé. La deuxième jour après le rituel Podopuzu, il est interdit à la communauté de travailler dans les champs. S'il y a du travail, alors le désastre, des sauterelles ou des ravageurs se reproduira. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec l'autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Chers amis, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien, qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est Saya tidak bisa bangun pagi. Je répète, Saya tidak bisa bangun pagi. Ou en français, je ne peux pas me lever au matin. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répétez après moi. Bangun. Bangun. En français, se lever. Pagi. Pagi. En français, le matin. Besok. Besok. En français, demain. Membangunkan. Membangunkan. En français, réveiller. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. En français, 4 du matin. Kenapa? Kenapa? En français, pourquoi? Kemana? Kemana? En français, où? Pergi. Pergi. En français, aller. Takut. Takut. En français, avoir peur. Terlambat. Terlambat. En français, être en retard. Jam alarm. Jam alarm. En français, le réveil. Berbunyi. Berbunyi. En français, sonner. Matikan. Matikan. En français, attendre. Tidur. Tidur. En français, dormir. Maintenant, je vais mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Cette conversation est entre Donny A et Andy B par téléphone. A. Andy, bisakah kamu besok membangunkan saya jam 4 pagi? Andy, bisakah kamu besok membangunkan saya jam 4 pagi? En français, Andy, pourrais-tu me réveiller demain à 4h du matin? B. Kenapa? Kamu mau kemana? Kenapa? Kamu mau kemana? En français, pourquoi? Tu vas aller où? A. Saya besok pagi harus pergi ke Bandung. Saya besok pagi harus pergi ke Bandung. En français, je vais à Bandung demain matin. Saya takut terlambat. Saya takut terlambat. En français, j'ai peur d'être en retard. Karena saya tidak bisa bangun pagi. Karena saya tidak bisa bangun pagi. En français, car d'habitude, je ne sais pas me réveiller au matin. B. Apakah kamu tidak punya jam alarm? Apakah kamu tidak punya jam alarm? En français, tu n'as pas un réveil? A. Ada. Walaupun ada alarm, saya tetap tidak bisa bangun. Ada. Walaupun ada alarm, saya tetap tidak bisa bangun. En français, si, mais c'est nul. Alarm berbunyi, saya langsung matikan. Alarm berbunyi, saya langsung matikan. En français, quand il sonne, je l'éteins tout de suite. Saya terus tidur lagi. Saya terus tidur lagi. En français, puis je continue à dormir. B. Baiklah, besok saya bangunkan kamu. Baiklah, besok saya bangunkan kamu. En français, donc d'accord, je vais te réveiller demain. Voilà cette édition de Apprendre l'Indonésie. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous reverrons demain avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention et au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique musicale. Et pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons des chansons de Dangdut chantées par le groupe musical Trio Sekar Langit. Écoutons maintenant la première chanson intitulée Balat de Dangdut.
Di kota
C'était la chanson chantée par Trio Sekar Langit, intitulée Balade de Dangdut. Cet album a été lancé avec le même titre, Balade de Dangdut, 1996. Cette chanson, composée par Radesh Dasua, est la bande sonore dans le feuilleton de Balade d'Andoute qui a été diffusé par une de la télévision privée nationale à cette époque-là. À travers cet album, Balade d'Andoute, Trio Sekar Langit, dont les membres sont Iis Dahlia, Elvi Zukaisi et Camelia Malik, ont essayé de présenter une touche de modernité à l'apparence et à l'emballage de l'album. Ce processus de fabrication de l'album Balade d'Andoute se fait également en Indonésie et aux États-Unis. Le processus de mélange est fait à Erla Studio Glendale, en Californie, avec une technologie numérique assez moderne. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées « Sur l'amour », chantées par Trio Sekar Langit.
Oh,
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique musicale. Chers amis, trio Sekar Langit est originaire de l'initiative de Camelia Malik. L'idée est simple, combine les trois pouvoirs des chanteuses de dangdut qui ont déjà beaucoup de fans. Puis ce trio a sorti le premier album qui est également devenu le dernier album balade de dangdut. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, écoutons maintenant la dernière chanson intitulée « Mon soleil ». Merci à tous et à demain. C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.